Merci beaucoup pour cet accueil. Est-ce que j'ai besoin du micro? Est-ce que je le rapproche? Je le rapproche? Est-ce qu'il marche? Et là, ça va? Très bien. Donc, comme l'a dit Yves Le Pestifon, je vais prononcer, pour reprendre ces termes, un éloge de la ponctuation. Alors, faire l'éloge de ce dérisoire répertoire de points et de blancs, ça paraît a priori une gageure, mais ce que j'aimerais montrer, c'est que la ponctuation fait partie, enfin, est partie prenante du style de l'écrivain. Ces signes minuscules, virgule, on a parlé déjà de l'importance de la virgule, de points ou parenthèses, évoquent cependant plus les dictées à l'école, la voix du maître dictant des signes, enfin, des questions de grammaire, somme toute, plutôt qu'un point de vue de style ou un point de vue esthétique. Mais c'est donc la gageure que je tiens dans le livre dont a parlé Yves Le Pestifon, et c'est ce que je voudrais essayer de faire. Alors, d'abord, pour vous convaincre du bien fondé de la chose, il faut que je déploie un petit peu les différentes acceptions de ce terme de ponctuation, parce que il y a la ponctuation de phrase, ça c'est sûr, c'est les signes, ce sont les signes en usage, virgule, point, point d'interrogation, etc. Mais il y a aussi ce qu'on peut appeler la ponctuation de page, c'est-à-dire la façon dont le texte se déploie, s'inscrit sur l'espace de la page, la mise en page, hein. Et aussi, si on élargit beaucoup, la ponctuation d'œuvre, par exemple le découpage d'un roman en chapitre, ou bien le découpage d'une pièce de théâtre en acte et en scène. Et si on inverse la focale avec un effet de zoom, on aura aussi une ponctuation de mots avec ces petits signes que sont par exemple l'apostrophe ou la majuscule. Ça, c'est une chose. Vous voyez, la ponctuation peut avoir, peut recevoir différentes acceptions. Il faut aussi que j'élargisse le champ. Alors je vois un petit auditeur là-bas, mais non. Au-delà du texte, parce que j'y reviendrai à la fin si j'ai le temps, l'écrivain n'est pas seul à ponctuer son œuvre. Le musicien ou le peintre ne font pas autre chose quand ils jouent avec les intervalles de son ou de forme ou de couleur, de même que le cinéaste lors du montage du film ou l'architecte qui crée un espace urbain. Alors, le terme de ponctuation, vous voyez, il est utilisé dans les arts et il va recevoir tantôt une acception temporelle, par exemple en musique. On peut penser à l'équivalence des signes qu'il y a en musique, comme pause, demi-pause, point d'orgue, etc. Et nos signes de ponctuation. Il va recevoir une acception plutôt spatiale en peinture. Là, on pense plutôt au tableau de Klee, à certains titres de ces tableaux, comme par exemple écriture végétale. En cinéma, au cinéma, je l'ai dit, c'est plutôt le montage, c'est une sorte de ponctuation du film hein, qui va jouer sur le temps avec les flashbacks, etc. Et puis en architecture aussi, parce que nous sommes, enfin en architecture, c'est plutôt en urbanisme, parce que les places et les axes, les rues piétonnes, les voies rapides dessinées par l'architecte dirigent par là même le flux des automobilistes et oriente la déambulation du piéton et ponctue sa promenade. Donc j'y reviendrai tout à la fin si j'ai le temps. Et puis il faut aussi, toujours pour vous convaincre de cette gageure, donc que je fasse état d'une évolution du statut de la ponctuation. Alors là, d'un point de vue académique, parce qu'il y a encore très peu de temps, la ponctuation était l'objet d'un mépris certain. Elle était absente, tout simplement, des manuels de grammaire ou des manuels de style. Et d'un point de vue linguistique, ce qu'on disait, c'est que c'était le calque bien imparfait de ce qu'on appelle la prosodie. La prosodie, c'est-à-dire l'accent, l'intonation, tout ce qui échappe, vous voyez, à la segmentation du langage et qui marque notre parole à l'oral. Et donc, comme c'était un calque bien imparfait de la prosodie, c'était quelque chose qui n'était pas intéressant pour les linguistes. On parlait des artifices de ponctuation, de typographie, ou de mise en page. Alors là, il faut évoquer les travaux fondateurs de la linguiste Nina Katash, qui s'intéressait à la ponctuation, mais aussi à l'orthographe, les travaux fondateurs aussi d'Anne-Marie Christin et de son équipe, tout ça dans les années 80, en gros, qui vont, en fait, porter une attention nouvelle à l'écrit. Et puis, on témoigne aussi, d'un point de vue plus large, tous les ouvrages sur l'histoire du livre, l'histoire de la lecture, Roger Chartier, vous voyez, ou l'histoire même de l'écriture, et des expositions aussi qu'il y a eu à la BNF dans les années 90 sur naissance des écritures. Et une d'entre elles s'appelait La Page. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on voit la ponctuation, elle est liée aux habitudes, aux pratiques en fait de lecture, qui sont elles-mêmes liées à l'essor, pardon, des supports matériels des textes. Et c'est ainsi, en gros, qu'elle s'est déprise de la référence à l'oral, qui était prégnante évidemment au tout début. Alors, je ne sais pas si je vais faire un parcours historique in extenso, je l'ai préparé, mais vous voyez l'idée du volumen de l'Antiquité qu'on déroule, vous voyez, dans ce sens-là, et où l'écriture s'inscrit de façon perpendiculaire, ce volumen, il témoigne d'une reproduction, enfin d'une conception de l'écriture comme reproduction de la parole, quelque chose qui est lié. Hein. On ne peut pas faire des retours en arrière, on ne peut pas faire des consultations ponctuelles sur un volumen. En revanche, le volume actuel, héritier du codex, donc le manuscrit en cahier, utilise quant à lui les trois dimensions, avec un troisième axe en épaisseur perpendiculaire aux deux autres. Et il permet une autre lecture qui sera facilitée plus tard par ces précieux outils que sont précisément le découpage en chapitres, la table des matières, l'index, la mise en page, les notes de bas de page, etc. Donc, depuis le moine qui lisait à voix haute le manuscrit pour la communauté, jusqu'à la généralisation de la lecture silencieuse et individuelle, bien après l'invention de l'imprimerie, tout cela ne s'est pas fait en un seul jour. Et la lecture que nous connaissons, elle est avant tout plaisir et liberté, puisqu'on peut faire ce qu'on veut, on peut aller et venir, retourner en arrière, etc. Et il n'en a pas été toujours ainsi, parce que le diseur, encore une fois, qui lisait à haute voix pour la communauté toujours les mêmes textes, ou la lente lecture scolastique des clercs, fondée sur la ruminatio, ont peu de choses à voir avec notre pratique de lecteur. Enfin, notre façon de lire est historique, et d'ailleurs notre façon actuelle de lire est en train de subir une mutation majeure avec la lecture sur écran, les liseuses, les ordinateurs, les téléphones, etc. C'est-à-dire qu'elle n'est plus, elle est encore moins linéaire, puisque on peut faire des allers-retours, on peut cliquer sur des mots surlignés, etc., etc., avec les liens hypertextes. Et à ce propos, on parle souvent du délitement, justement, de la ponctuation, particulièrement chez les jeunes. En fait, les jeunes, ils n'ont jamais autant écrit, alors écrit, effectivement, sur des supports que nous ne connaissions pas, les réseaux sociaux, les chats, les SMS, par exemple, sur texto, et on dit ça plus ponctué, certes, mais avec les textos, on voit l'apparition d'une nouvelle forme de ponctuation, parce que les smileys, c'est pas autre chose. C'est des formes de ponctuation. En fait, il ne faut pas dire smiley, justement, il faut dire soit primus, c'est le terme recommandé par l'Académie, ou bien émoticône. Alors, émoticône, effectivement, parce que ça renvoie à l'humeur de l'émetteur. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces smileys, ils empruntent précisément aux signes de ponctuation pour en créer d'autres. Hein, avec la parenthèse ouvrante et la parenthèse fermante. Alors, la parenthèse ouvrante et le deux points qui figurent les deux yeux, ben, ça c'est la gaieté. La parenthèse fermante et les deux points, c'est un peu comme dans un masque de la tragédie antique, en fait. Hein, c'est la tristesse. Alors, je ne sais pas si je déroule tout mon parcours historique de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Je ne sais pas. Je vais peut-être sauter, enfin, donner quelques moments forts. En fait, il faut remonter au conservateur de la bibliothèque d'Alexandrie, donc 3e, 4e siècle avant notre ère, pour trouver les inventeurs de la ponctuation. En gros, ils avaient, Aristophane de Byzance, par exemple, avait entrepris de ponctuer le texte d'Homère. Alors, chose qui était extrêmement difficile, puisque les conservateurs avaient bien conscience que quand on ponctue, en fait, on interprète. C'est ce qu'on disait pour une virgule bien ou mal placée au tout début. Donc, la ponctuation, c'est d'un côté des marques, vous voyez, autour du texte quasi sacré, un peu comme les Védas en Inde, le texte d'Homère, c'est quelque chose voilà, le texte par excellence pour les conservateurs. Et donc, il y a tout un tas de signes pour marquer des coupures, pour des corrections, des commentaires, mais pour bien séparer le texte des gloses. Donc ça, c'est plutôt l'écrit, le visuel. Mais en même temps, les hôtes qui venaient des quatre coins du monde dans cette bibliothèque d'Alexandrie, ils avaient besoin aussi d'indications pour la prononciation, hein, des lettres amuies, ou comment prononcer tel ou tel mot. Et donc, les signes, dans ce cas, sont des marques de diction. Hein. Donc, vous voyez, dès le départ, la ponctuation, elle est entre l'oral et l'écrit. Et si elle est plus du côté de l'oral au départ, elle va être de nos jours plus du côté visuel. Alors, si on fait un bond en avant, on arrive à l'ère patristique, 3e siècle en gros, 3e, 4e siècle après notre ère, et on tombe sur Saint Jérôme, qui donne le premier exemple de mise en ponctuation suivie, en donnant à la traduction latine des textes de la Bible une apparence de texte lisible. Puisqu'avant, les textes, quand vous voyez des manuscrits, ils sont écrits, tous les mots sont attachés, c'est la scriptio continua. Et scriptio continua, alors que Saint Jérôme va traduire donc la Bible avec une écriture per colla et comata, c'est-à-dire par point, colla, et comata et virgule, c'est-à-dire en séparant en fait les mots les uns des autres. Et donc il invente, on a là l'invention du premier signe de ponctuation, un des signes majeurs en fait, qui est le blanc, l'espace entre les mots, espace au clair. À laquelle nous sommes tout à fait habitués. Espace en typographie, c'est féminin, mais c'est quelque chose qui n'a pas été, si vous voulez, d'emblée présent dès le départ. Et donc, c'est la principale différence, en fait, entre l'oral, où quand on parle, on a une chaîne ininterrompue de mots, et l'écrit, où on a des caractères discrets, au sens de distinctif, des mots séparés les uns des autres. Et là aussi, si on fait un tout petit bond en avant et on arrive au Moyen-Âge, en fait, ça, ces deux périodes sont liées, on va trouver une autre des sources de la ponctuation qui est la musique, avec le chant grégorien et avec les neumes du chant grégorien. Les neumes, au départ, c'est une petite mélodie courte et typique. Vous savez, ce sont des petites... je ne sais pas si vous avez vu déjà le chant grégorien, on n'a pas la portée. Avec des notes sur une portée, on a simplement des signes au-dessus de telle ou telle syllabe qui vont donc indiquer une courte mélodie et puis plus tard une marque graphique. C'est aussi une des origines de nos signes de ponctuation. Et on voit là aussi que la ponctuation médiévale, il y a très peu de signes internes. Il y a des virgules, il y a des points, il y a quelque chose qui ressemble au point-virgule. Mais il y a des signes visuels avec les enluminures, les capitales coloriées, qui font d'ailleurs que ces manuscrits sont des objets esthétiques, quoi. Ils sont très beaux à contempler. Donc, à la fois pour l'oreille et pour l'œil, puisque la lecture, jusqu'au XIVe ou XVe siècle, c'est à la fois la lecture silencieuse, mais pour très peu, et une lecture orale. Les lettrés qui savent lire par eux-mêmes aiment se faire lire leurs œuvres préférées. Et Christine de Pisan relate ainsi dans la biographie qu'elle consacre en 1404 à son protecteur, livre des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles V, que le roi avait choisi pour se faire Gilles Mallet, valet de chambre du roi et gardien de sa librairie du Louvre, qui, je cite, « souverainement bien lisois et belle pontois et entendance os et stois ». C'est-à-dire, il lisait remarquablement bien, ponctuant agréablement ses phrases. C'était un homme intelligent. Comme le montre la précision finale, la ponctuation est une affaire de finesse, puisque c'est par l'intuition intelligente du liseur qui supplée au manque de signes dans les manuscrits. Et alors, après la période médiévale, évidemment, c'est Gutenberg avec l'imprimerie, où là, c'est une révolution, puisque les premiers imprimés, les incunables de la Renaissance, imitent encore l'espace et la forme et la présentation du manuscrit, mais très vite, on va avoir un texte plus aéré, avec des marges, c'est ce que je disais tout à l'heure, quelque chose donc qui va vers l'écrit. Et là, j'ai envie de vous citer un des premiers ouvrages de typographie de la Renaissance, qui s'appelle Champ Fleuri, de Geoffroy Thory, qui est imprimeur et libraire. Et ce premier traité de typographie, c'est en même temps un des plus beaux livres de la Renaissance. Le sous-titre de Champ Fleuri, c'est L'art et science de la due et vraie proportion des lettres. Et on a des riches illustrations des lettres, donc, qui montrent qu'elles doivent être, je cite Thory, proportionnées selon le corps et visage humain. Pour Thory, inspiré par Durer ou par Vinci, les lettres sont, je cite, si naturellement bien proportionnées que, à la semblance du corps humain, sont composées de membres, c'est-à-dire de nombres, points et lignes, consistant en égales partitions et inégales. Ainsi, par exemple, le A majuscule a les jambes élargies et épatées, comme un homme à ses pieds et jambes en marchant et passant outre. La barre transversale du A majuscule couvre précisément le membre génital de l'homme pour dénoter que pudicité et chasteté avant toute chose sont requises en ceux qui demandent accès et entrée aux bonnes lettres, desquelles le A majuscule est l'entrée et la première de tous les abécédaires. Alors vous voyez, il s'agit plus de typographie que de ponctuation, mais en fait, les deux sont liés. C'est Thory, par exemple, qui va inventer l'apostrophe ou qui va inventer la cédille. Ensuite, donc, pour aller vite, on a le premier traité de ponctuation de Daunay, donc imprimeur de la Renaissance. Et en fait, c'est au moment de la Renaissance que cette révolution, si vous voulez, de l'imprimerie va voir apparaître un troisième personnage entre l'auteur et le lecteur, c'est l'imprimeur, le typographe, hein, qui est tout à fait conscient de ses droits à l'âge classique et même jusqu'au XIXe siècle. Parce que au Moyen-Âge, en gros, c'est souvent le même homme qui lit le manuscrit, le recopie et la note de signe de ponctuation pour en préparer la lecture qu'il fera à voix haute. Donc avec la Renaissance, on voit apparaître cet imprimeur et progressivement, à l'âge classique, 17e, 18e, 19e, la corporation des imprimeurs est vraiment tout à fait consciente de ses prérogatives. Les imprimeurs, les grammairiens, c'est eux qui ont, si vous voulez, qui détiennent les règles à suivre. Et c'est précisément au 19e, lorsqu'on va normaliser l'orthographe, normaliser la ponctuation, que les écrivains vont s'insurger et vont réclamer une nécessaire liberté en la matière. Alors c'est George Sand qui lance le mouvement. George Sand, elle fut la première à accorder ce statut, si vous voulez, subjectif et personnel à la ponctuation, et justement elle a eu des démêlés avec les imprimeurs. Revendiquant haut et fort sa liberté en ce domaine, elle n'entendait pas que les protes, les ouvriers du livre, corrigeassent la ponctuation de ses manuscrits. Et elle dit, le style doit se plier aux exigences de la langue, mais la ponctuation doit se plier aux exigences du style. Je nie qu'elle relève immédiatement des règles grammaticales. Je prétends qu'elle doit être plus élastique et n'avoir point de règles absolues. Alors, les imprimeurs vont répliquer vertement, et la corporation, par l'intermédiaire de son organe de presse, n'hésite pas à tenser sévèrement l'écrivain. Nous regrettons d'avoir à critiquer les vues, tant soit peu fantaisistes, de la grande prosatrice, mais c'est pour nous un devoir. La ponctuation a une part trop importante à la clarté de notre langue, comme de toutes les langues d'ailleurs, pour l'abandonner aux caprices des écrivains qui, la plupart, n'y entendent pas grand-chose. On verrait de belles choses si on laissait aux auteurs la responsabilité de leur ponctuation. Et plus loin, grâce aux soins de nos correcteurs et de nos protes, la France est le pays où l'on ponctue le mieux. Si on avait la faiblesse de céder aux prétentions fantaisistes de certains écrivains, nous descendrions au dernier rang. Alors, de nos jours, les choses se sont un petit peu arrangées. Même s'il y a toujours des problèmes avec les éditeurs et les imprimeurs, on constate quand même de plus en plus un respect pour la ponctuation originale de l'auteur. Ce qui n'était pas le cas il y a vraiment très peu de temps. Un bon exemple, c'est si on compare les deux éditions de Proust dans la Pléiade. La première, elle date de 1954, et ce sont deux inspecteurs généraux de l'éducation nationale, Clarat et Ferré, qui se sont chargés de l'édition. Or, la ponctuation de Proust, si on, on l'analyse au regard des règles grammaticales, c'est la ponctuation d'un cancre. Il n'y a pas assez de virgules, c'est-à-dire les virgules ne sont pas présentes là où on les attendrait, par exemple pour une imposition, et en revanche, il y a beaucoup trop de parenthèses. Donc, les deux inspecteurs de l'éducation nationale, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont publié la pléiade? Eh bien, ils ont corrigé la ponctuation de Proust. En particulier, ils ont ajouté un nombre impressionnant de virgules. La seconde édition de la Pléiade, fin des années 80-90, dirigée par Jean-Yves Tadier, a enlevé les virgules qui avaient été ajoutées par Clara Cléferet, tentant de restituer, autant que faire se peut, la ponctuation originale de l'auteur. Alors, de nos jours, en gros, les écrivains revendiquent cette ponctuation personnelle et subjective. Ils mettent souvent en avant des questions de voix et de souffle. Hervé Bazin, par exemple, dit « Ma ponctuation est naturelle, telle à la plume qu'à la bouche. » Geneviève Serrault, elle dit « J'écris à haute voix de toute façon et avec le souffle. » D'autres, pour prendre un auteur plus proche de nous, comme Maïlys de Kerangal, auteur de « Réparer les vivants » paru il y a 2 ans, mettent aussi l'accent sur la ponctuation de page et la ponctuation d'œuvre. C'est-à-dire qu'elle explique que c'est l'atelier de l'auteur et elle règle avec précision ces questions-là qui, pour elles, ne sont pas du tout dérisoires. Vous voyez, est-ce que je fais un retour ligne ici? Est-ce que je fais un saut de ligne, de 2 lignes? Est-ce que je fais un saut de page? Où est-ce que je mets le titre sur la belle page, par exemple, la page de droite? Bref, ces questions-là, elles ne les laissent pas à l'éditeur ou à l'imprimeur. Donc, les écrivains ont des sentiments subjectifs avec les signes de ponctuation, mais tout un chacun a des signes subjectifs. À des relations subjectives. Par exemple, si on analyse la différence entre les parenthèses et le tiret-ligne, grosso modo, pour faire vite, c'est la même chose. On peut avoir une parenthèse entre 2 tirets, ou on peut avoir une parenthèse entre une parenthèse ouvrante et fermant. Or, je viens de dire que c'est la même chose, pour faire vite, mais justement, pas du tout. Ça dépend des écrivains ou de, encore une fois, tout un chacun. Hein, par exemple, Claude Mourtet, il utilise souvent le tiret, très américain, de préférence à la parenthèse. Jean Joubert, il use de 2 tirets au lieu d'une parenthèse, comme dans la langue anglaise, parce que c'est vrai que le tiret vient, c'est un usage anglo-saxon. Mais les points de vue sont les plus divers, voire les plus contradictoires. Jacques Perry dit « J'ai une hésitation entre les tirets et les parenthèses, la parenthèse étant plus discrète, plus coulée, et les tirets plus provocants. » Michel Tournier, lui, il affectionne assez les tirets, qui sont comme des parenthèses, mais plus élégantes, plus discrètes et moins traumatisantes pour le texte. Donc vous voyez, des avis aussi péremptoires que subjectifs. Et je suis sûre que vous-même, vous avez une préférence, par exemple, pour les tirets ou pour les parenthèses. Donc on observe aussi des effets de mode dans l'usage de tel ou tel signe. Par exemple, le point-virgule, il a été méprisé, on pourrait dire, pendant toute la fin du XXe siècle, après avoir été, à l'âge classique, le signe par excellence qui marquait la période classique, la période de Bossuet, et on observe qu'il revient au début du XXe siècle. Laurent Villiers, par exemple, l'utilise beaucoup. Le point d'exclamation, par exemple, il est vraiment en vogue actuellement, il déborde même l'espace de l'écrit, hein, puisque on a des... Je sais pas, un article sur 2 dans un journal va être ponctué par le signe d'exclamation. On a le livre célèbre, Indignez-vous, de Hessel, qui est marqué par un point d'exclamation. On a même des marques comme Yahoo qui sont suivies d'un point d'exclamation. Donc vous voyez, le signe intervient dans un espace autre. Les écrivains parlent d'ailleurs très bien de la ponctuation. Julien Gracq, je vous donne cette citation, il explique, lui, sa prédilection pour les tirets, parce qu'ils suspendent la construction syntaxique en obligeant la phrase à cesser un instant de tendre les rênes. Il aime bien aussi les 2 points. Il parle d'un économiseur péremptoire et expéditif parce qu'il remplace une conjonction de subordination. D'autres auteurs réclament de nouveaux signes de ponctuation. Par exemple, Raymond Queneau, il utilise 2 points d'exclamation renversés dont il précise que c'est le point d'indignation. Hervé Bazin, il propose le point de doute qui ressemble à un point d'interrogation, le point de certitude qui ressemble à la croix, le point d'exclamation et enfin, pour prévenir les confusions possibles, le point d'ironie représente la suggestion de Marcel de Brame un polygraphe français du début du XXe siècle. Alors, ce point d'ironie qui ressemble vaguement à une sorte de point d'interrogation à l'envers, moi je l'ai vu il y a peu sur des t-shirts. Donc c'est quelque chose qui se répand, mais en même temps, je crois qu'on n'a pas intérêt à ce que l'usage s'en répande, parce que précisément l'ironie, c'est une des marques de la littérature, c'est discret. C'est-à-dire que c'est au lecteur de voir s'il y a ou non ironie, et si on a quelque chose qui nous dit ah, attention, là c'est l'ironie, c'est un petit peu, vous voyez, comme les acclamations ou les rires ou les applaudissements enregistrés dans une émission de télévision. Donc, je vous le disais, c'est au début de la première moitié du 19e que les écrivains vont s'insurger et faire un usage des signes qu'ils revendiquent comme totalement subjectifs. Alors ça, c'est la première citation que je vous ai mise, c'est juste un clin d'œil dans mon exemplier, c'est Villiers de l'Isle-Adam, qui adore les tirets, les parenthèses, il les enchasse les uns dans les autres. Mais là, c'est un simple tiret, donc dans cette toute petite phrase, je vous laisse la lire. Maître Percenoix, quelques jours après, étant plongé dans cette préoccupation, glissa dans son escalier et fit une chute dont il décéda. Il se dirait, il n'a rien à faire. Il est avant le verbe, entre le sujet et le verbe, mais on pourrait y voir, c'est ce qu'ont dit les étudiants la semaine dernière, comme une marche de l'escalier sur lequel glisse le personnage, et en tous les cas, il prépare, si ce n'est la chute de la phrase, mais au moins la chute du personnage. Donc on voit bien que là, l'écrivain l'emploie de manière totalement personnelle et subjective, en dehors de toute règle grammaticale. Flaubert utilise aussi beaucoup le tiret et le blanc pour travailler la chute de ses phrases et la chute de ses paragraphes. « Je n'ai plus qu'une dizaine de phrases à écrire, écrit-il à Théophile Gautier, mais j'ai toutes mes chutes de phrases. » Et quand il écrit Madame Bovary, il travaille donc à créer une tension rythmique entre les paragraphes. Il faut en effet, comme il le dit donc à Louise Collet, que les paragraphes dévalent les uns sur les autres. Alors qu'à cette étape de son travail, ils sont encore tournés, arrêtés. Il va falloir les dévisser, dit-il, lâcher les joints, comme on fait au mât des navires quand on veut que les voiles prennent plus de vent. Et ça, c'est des questions de retour à la ligne. Cet usage du blanc par Flaubert a été commenté par Proust, qui déclare que la chose la plus belle de l'éducation sentimentale, ce n'est pas une phrase, mais un blanc. Alors ça, c'est l'exemple que je vous ai mis dans la citation 2. C'est un long passage de l'éducation sentimentale, et c'est le blanc qui existe dans la troisième partie, entre la fin du chapitre 5, c'est ce que vous avez, et le début du chapitre 6. Je vous le lis, puisque je l'ai coupé. Il était 5 heures, une pluie fine tombait. Les bourgeois occupaient le trottoir du côté de l'opéra. Les maisons d'en face étaient closes, personne aux fenêtres. Dans toute la largeur du boulevard, des dragons galopaient à fond de train, penchés sur leurs chevaux, le sabre nu. Et les crinières de leurs casques et leurs grands manteaux blancs soulevés derrière eux passaient sur la lumière des becs de gaz qui se tordaient au vent dans la brume. La foule les regardait, muette, terrifiée. Entre les charges de cavalerie, des escouades de sergents de ville survenaient pour faire refluer le monde dans les rues. Mais, sur les marches de Tortolune, un homme, du Sarrier, remarquable de loin à sa haute taille, restait sans plus bouger qu'une cariatide. Un des agents qui marchait en tête, le tricorne sous les yeux, le menaça de son épée. L'autre alors, s'avançant d'un pas, se mit à crier « Vive la République !» Il tomba sur le dos, les bras en croix. Un hurlement d'horreur s'éleva de la foule. L'agent fit un cercle autour de lui avec son regard, et Frédéric, béant, reconnut ses migraines. Saut de chapitre, chapitre 6, il voyagea. Frédéric, il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveillés sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. Il revint. Il fréquenta le monde et il eut d'autres amours encore. Mais le souvenir continuel du premier les rendait insipides. Et puis la véhémence du désir, la fleur même de la sensation, était perdue. Ses ambitions d'esprit avaient également diminué. Les années passèrent. et il supportait le désœuvrement de son intelligence et l'inertie de son cœur. Vers la fin de mars 1967, etc. Alors Proust comment ce blanc, ce qu'il appelle un blanc, avec le changement, si vous voulez, de régime entre la fin du chapitre 5, où vous avez des retournées, où l'action, si vous voulez, le temps de l'action coïncide avec le temps du récit, le temps de l'histoire coïncide avec le temps du récit, où on suit la narration, peut-être, on pourrait dire, minute par minute, et le chapitre se termine donc sur Sénécal, qui vient de tuer Dussardier, deux amis, deux ex-amis, en tous les cas deux amis en tous les, de Frédéric, le héros de l'éducation sentimentale, qui, comme vous le savez, ne fera rien de bon dans sa vie, ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue sentimental. Et ici, pas de commentaire, vous voyez, de la part de Flaubert. En revanche, une reprise avec « Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots ». Et là, on a un blanc, comme dit Proust, parce que la mesure, je vous dis ce que dit Proust, Flaubert vient de décrire, de rapporter pendant de longues pages, les actions les plus menues de Frédéric. Frédéric voit un agent, etc. Frédéric reconnaît Sénécal. Ici, un blanc, un énorme blanc. Et sans l'ombre d'une transition, soudain, la mesure du temps devenant, au lieu de quart d'heure, des années, des décades, et Frédéric Béhan reconnut Sénécal, etc. C'est-à-dire que ce saut, ce blanc, marque à lui seul, bien mieux que ne saurait le faire une longue explication, tous les désappointements, les déceptions, effectivement, qu'ont connu les Républicains en 48, puisque là, il s'agit du coup d'État du 2 décembre de Napoléon III, et ce blanc, donc, c'est une question de ponctuation, de page. Donc, pour faire vite, ensuite, au 19e, ce sont les poètes qui ont poussé au plus loin ces possibilités de ponctuation de page. C'est ce que vous avez au verso de votre exemplier. On connaît les calligrammes, c'est ce que vous avez tout en bas de la page. Calligrammes qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler une typographie expressive, mais je vous ai mis aussi au-dessus, la première, une reproduction d'une double page de Un coup de dé, où Un coup de dé est un jeu sur la ponctuation de page, sur la taille des caractères, sur la police des caractères. Mallarmé dit la différence des caractères entre le motif prépondérant, un secondaire et adjacent, dicte son importance à l'émission orale et la portée moyenne en haut, en bas de page, notera que monte ou descend l'intonation. Donc ici, on a une utilisation emblématique de la ponctuation de page, à la fois pour l'œil, puisque l'œil prend connaissance à la fois de ces blancs et de ces décalages, et aussi pour l'oreille, puisque, comme le dit Mallarmé, on a tendance à lire de façon plus aiguë ce qui est en haut et de façon plus basse ce qui est en bas. En tous les cas, c'est une partition. Alors les romanciers du XXe n'oublieront pas ces inventions. Par exemple, c'est la deuxième reproduction que je vous ai mise toujours sur le verso. C'est le début de Le Jardin des Plantes de Claude Simon. On a comme une sorte de feu d'artifice typographique au tout début du Jardin des Plantes où on a, vous voyez, des paragraphes qui jouent avec des entablements. Elle n'est pas très très claire, la reproduction, mais j'imagine que vous saisissez ce que je veux dire, à savoir que la marge, elle bouge, le curseur a bougé, et l'œil saisit ces paragraphes comme autant de tableaux, les tableaux dont il est question dans le Jardin des Plantes, il est question des tableaux d'un peintre, Novelli, peintre qui existe, et ici, ces paragraphes se présentent comme des tableaux. Et en fait, cette dispersion typographique sur la page, elle donne naissance, on le voit, à une lecture un peu démultipliée, un petit peu comme le coup de dé, qui met à mal le principe de linéarité. Ce principe de linéarité, il est au cœur de la langue. Saussure l'a montré, le langage est linéaire, tout particulièrement à l'oral. Pour parler, je ne peux qu'ajouter un mot à un autre, ajouter une phrase à une autre, etc. À l'écrit, peut un petit peu jouer avec cette linéarité puisqu'on a les deux dimensions de l'espace de la page. C'est ainsi, par exemple, que les parenthèses, quand on fait une parenthèse, j'en ai pas mis ici, mais il y en a beaucoup chez Proust et il y en a beaucoup chez Claude Simon, on a des parenthèses qui présentent une correction sur ce qui vient d'être dit. Or, à l'écrit, rien n'est plus simple que de barrer directement ce qu'on vient d'écrire pour le remplacer, vous voyez ce que je veux dire, par la correction. Or, cette juxtaposition du terme corrigé et de la correction, hein, c'est un effet de la volonté de l'auteur, de Proust ou de Claude Simon, pour transformer en fait la parenthèse en, comme une sorte de mise en scène de l'écriture dans ses corrections, dans son élaboration même. Et le fait donc de présenter comme ça des corrections, c'est un petit peu comme si la parenthèse, elle déroulait une dimension, vous voyez, verticale. Saussure a expliqué, donc en linguistique, que le langage se déploie sur deux axes. L'axe horizontal, qui est l'axe de la syntaxe, l'axe de l'ordre des mots dans la phrase, l'axe syntagmatique, et l'axe des corrections, des substitutions, des changements, qui est l'axe paradigmatique. Donc c'est un petit peu comme si les parenthèses permettaient d'écrire sur plusieurs lignes, un petit peu à la même manière des musiciens qui écrivent sur une portée. C'est aussi le même effet qu'on a quand on a des notes de bas de page. Vous voyez, on peut très bien écrire et mettre une note de bas de page qui va proposer un commentaire, une correction, voire une autocritique, et la note va venir faire vaciller, si je puis dire, le texte qui trône au-dessus d'elle. Bref, ces parenthèses, elles sont un des moyens de déjouer la linéarité de la langue, la linéarité de l'écriture. Et la linéarité de l'écriture, c'est quelque chose sur lequel revient constamment Claude Simon. Il disait, par exemple, à Claude Sarraute en 60, lors de la sortie de La Route des Flandres, « Quand j'écris, je suis forcé de plier ce magma de sensations, de souvenirs, de pensées qu'il y a en moi simultanément. Il faut bien que je les aligne dans un ordre, puisque l'écriture est linéaire. Les peintres ont bien de la chance. » Et c'est un peu la même chose qu'il dit en 97, hein, tout le temps avant sa mort, à Solaire, lors de la sortie du Jardin des Plantes, justement. Il y a cette réflexion de Tolstoï que j'ai citée dans mon discours de Stockholm, quand il a reçu le prix Nobel. Un homme en bonne santé perçoit couramment, sent et pense un nombre incalculable de choses à la fois. Là est le problème. L'écriture, contrairement à la photographie ou à la peinture, qui donne tout en même temps, et vous savez que Claude Simon s'est essayé à la photographie, l'écriture donc ne peut présenter les choses que successivement, dans un certain ordre, en donnant les choses les unes après les autres, partant d'un même spectacle, selon que j'écris « Le pont franchit la rivière », ou bien la rivière passe sous le pont, mon lecteur ne verra pas la même chose. Donc, déjouer la linéarité de la langue, c'est la visée de Claude Simon, c'est la visée de maints auteurs, comme par exemple celle aussi de Proust, qui, alors là je vais peut-être avoir besoin de la reproduction, parce que, je ne sais pas si ça va vous intéresser, c'est une reproduction d'une dactylographie de Proust, où il a ajouté des corrections. Les corrections de Proust, c'est surtout des ajouts. En fait, on lui disait que ses phrases étaient trop longues, mais quand il les reprenait, il les allongeait encore en insérant des parenthèses. Et il dit à Jacques Rivière, je voudrais travailler sur plusieurs plans de manière à éviter la psychologie plane. Et ça, c'est très exactement ce que lui permettent de faire les parenthèses. Alors, c'est ça. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la dactylographie qui correspond à la citation numéro 3 que vous avez sur l'exemplillé. Donc, en gros, vous voyez sur ce qui est projeté que la citation était beaucoup plus courte. Proust a ajouté une parenthèse justement, mais je vais d'abord vous lire la citation de l'exemplier et on regardera ce que Proust a ajouté. Donc la citation de l'exemplier, c'est celle qui figure dans la version finale, c'est la citation 3. Alors il s'agit de la description des vitraux de l'église. L'église, c'est un lieu emblématique pour le narrateur enfant, et il décrit reflet des vitraux, c'est l'objet de la citation 3. Ces vitraux ne chatoyaient jamais tant que les jours où le soleil se montrait peu, de sorte que, fit-il gris dehors, on était sûr qu'il ferait beau dans l'église. L'un était rempli dans toute sa grandeur par un seul personnage, pareil à un roi de jeu de cartes, qui vivait là-haut, sous un dais architectural entre ciel et terre, et dans le reflet oblique et bleu duquel, parfois les jours de semaine, à midi, quand il n'y a pas d'office, à un de ces rares moments où l'église, aérée, vacante, plus humaine, luxueuse, avec du soleil sur son riche mobilier, avait l'air presque habitable, comme le hall de pierres sculptées et de verre peint d'un hôtel de style Moyen-Âge, on voyait s'agenouiller un instant Madame Sazora, posant sur le prie-dieu voisin un paquet tout ficelé de petits fours qu'elle venait de prendre chez le pâtissier d'en face et qu'elle allait rapporter pour le déjeuner. Dans un autre, une montagne de neige rose, etc. Alors voyez, si on regarde les avant-textes de la dactylographie, on constate que la mise en scène de ce personnage et cette double parenthèse qu'on a dans la citation, elle est l'objet d'un ajout. L'écriture manuscrite, vous voyez, entoure et cerne le texte dactylographié qu'elle déborde, comme sur les placards des premières épreuves, où le phénomène est encore plus spectaculaire. De la même manière, la parenthèse, qui est plus longue en fait que la phrase qui l'accueille, la gonfle démesurément. C'est comme une pâte, vous voyez, mais il faudrait dire que c'est une pâte feuilletée, parce qu'elle déplie les différents plans selon lesquels on va pouvoir voir les reflets des vitraux. Et c'est ainsi que Proust donc allonge ses phrases, mais il a besoin de ces phrases, de ces parenthèses pour expliquer, alors ça c'est au sens étymologique de expliquer, déplier, dérouler la description ou l'analyse ou le commentaire pour approfondir la description. Et vous voyez que cette description, donc avec cette double parenthèse, elle inscrit différents niveaux. Et ce qui est intéressant, c'est que en 13, donc c'est en 1913 que du côté de chez Swann paraît, et à la réception critique, les gens sentent qu'il y a quelque chose de nouveau là avec du côté de chez Swann, mais en gros ce qu'on dit, c'est que les phrases sont trop longues et qu'il y a trop de parenthèses. Or, Proust, il vient de passer quasiment l'année, en tous les cas 8 mois de 1913, à corriger, mais en fait, quand il corrige, il a encore rajouté des parenthèses. Et ce qui est intéressant, vous voyez que là, avec la double parenthèse, on le voit bien sur l'exemplier, la première parenthèse, si je puis dire, dans le reflet oblique et bleu duquel, parfois les jours de semaine, on voyait Madame Sazora, ça c'est... On fait un zoom sur un petit personnage qui s'agenouille dans le reflet bleu du vitrail, mais la seconde parenthèse à l'intérieur de la première, à l'un de ces rares moments où l'église aérée, vacante, etc., là, c'est un élargissement et une description à un degré plus général, donc, du vitrail. Et un des critiques, et ça avait particulièrement blessé Proust, il prend précisément cet exemple de parenthèse en disant, mais qu'est-ce que vient faire Madame Sazora là-dedans? On n'a pas besoin de Madame Sazora pour apprécier le reflet du vitrail. Et Proust dit, au contraire, que s'il l'a ajouté, c'est exprès. Et on voit bien là comment il gonfle sa phrase. La parenthèse, elle met alors en œuvre cette psychologie dans l'espace dont le narrateur veut user dans le livre à venir. Alors là, je cite Le temps retrouvé. Par opposition avec la psychologie plane d'Antonius d'ordinaire, afin, dit Proust, de marquer dans son œuvre la forme du temps. Parce que déjouer la linéarité de la langue, c'est déjouer la linéarité de l'écriture, c'est en quelque sorte déjouer la linéarité du temps. C'est-à-dire que la troisième dimension que déplie la parenthèse dans le texte s'ouvre alors sur la quatrième, celle du temps, c'est la dernière citation de l'exemplier. La numéro 4, toujours sur l'église, et c'est donc la description de l'église à laquelle le narrateur en France s'avance, sensible, si vous voulez, à toutes les strates du passé qu'offre l'édifice. Et c'est pour cela que l'église lui semblait quelque chose d'entièrement différent du reste de la ville. Je cite, un édifice occupant, si l'on peut dire, un espace à quatre dimensions, la quatrième étant celle du temps, déployant à travers les siècles son vaisseau qui, de travée en travée, de chapelle en chapelle, semblait vaincre et franchir non pas seulement quelques mètres, mais des époques successives d'où il sortait victorieux. Alors, ces strates du passé, vous voyez, c'est l'inscription du temps dans l'espace de l'église, puisque, comme beaucoup d'églises et comme beaucoup de monuments, c'est ce que dit la suite de la citation, dérobant le rue des Farouches, 11e siècle, dans l'épaisseur de ses murs, c'est-à-dire qu'on a un monument palimpseste où toutes les strates du passé sont présentes à la fois. Et les tirets, ici, dans la phrase, inscrivent dans le dessin même du texte un espace dont la quatrième dimension est le temps, comme l'église qui franchit non pas seulement quelques mètres, mais des époques successives. Bon, vous voyez l'image qu'on pourrait faire de la parenthèse, puisque quand on fait une parenthèse, on module son discours, on décroche un commentaire, on décroche une correction, hein, comme une note, comme justement c'est bien l'hypertexte dont je parlais tout à l'heure, puisque quand on lit, on peut cliquer sur un terme pour avoir une précision, des définitions, etc. Et la pause qu'instaure la parenthèse dans la phrase module le cours de cette phrase. Et le scripteur, l'écrivain, en tout cas celui qui écrit, en suspendant le cours de la phrase, il a l'illusion de suspendre le cours du temps, un petit peu comme si la parenthèse déployait un espace temporel au cœur de la phrase. Alors vous voyez comment cette image convient tout particulièrement à Proust. Proust, c'est la lettre du cocooning, replié dans sa chambre au mur de Liège, et la parenthèse, c'est comme une position, si vous voulez, d'extraterritorialité, et le citoyen qui jouit des prérogatives de cet espace, il est à la fois en dehors de l'espace, puisque la parenthèse, elle échappe aux contraintes grammaticales de la phrase qui l'accueille. On peut avoir une phrase avec un « il » et la parenthèse, il y aura un « je », une phrase avec un verbe au passé, dans la parenthèse, il y aura un verbe au présent. Et donc, c'est une image qui, à mes yeux, inscrit dans le texte l'image de la réminiscence, l'image du narrateur qui goûte la petite madeleine et qui est en dehors du temps. Bon, vous voyez, ça, là, c'est des considérations plus esthétiques, plus, oh, je prends la ponctuation au sens figuré, mais il me semble, c'est en tous les cas ce que je cherche à montrer à la fin de mon livre, que la ponctuation, c'est une des marques formelles de cette forme dans le temps, qui est le rythme, forme dans le temps, c'est la définition de Platon, c'est-à-dire que le chemin que dessine la phrase donne à sentir au lecteur une expérience du temps, à chaque fois singulière. Alors, je n'ai pas le temps, mais il faudrait montrer comment ce chemin de la phrase donne à sentir le temps, comment ponctuer la phrase, c'est ponctuer le temps. Par exemple, dans la phrase de Proust, le lecteur court à perdre haleine, ou il manque trébucher quand il bute sur le point final. Chez Claude Simon, c'est autre chose, c'est la phrase étale, le point final, il a été jeté par-dessus bord, hein. Vous avez des phrases qui font une page, deux pages, etc. Donc là, il faut faire la planche, se laisser porter, vous voyez, flotter entre deux eaux. Mais chez Graf, ça va être encore autre chose, ça va être une période bien construite, une période équilibrée, et on suit le rythme de la marche. Donc, le chemin de la phrase donne à sentir une impression du temps, mais ça, ça vaut pour la prose, et pas pour la poésie, parce que la prose, Horatio prosa, en latin, prosa, ça vient de prosus, qui va en ligne droite. Vous voyez, la prose, elle va de l'avant, un peu comme la phrase. C'est pour ça qu'on peut parler de rythme, de la lecture comme d'une promenade. Alors que dans la poésie, c'est autre chose. Là, c'est l'espace de la page et la part visuelle qui est importante. Bref, pour terminer, effectivement, là, si on peut projeter des installations de Serra, c'est là-dessus que je conclue mon livre, en rapprochant le parcours du lecteur qui s'avance dans le roman, hein, comme dans un territoire inconnu dont on prend peu à peu connaissance. Tout le monde a eu cette impression quand on ouvre les premières pages et qu'on lit les premières phrases d'un roman. Au départ, on est désorienté, et c'est ça qui fait au aussi le sel de la lecture. C'est pour ça qu'il ne faut pas lire les quatrièmes ou les résumés avant. Il faut se laisser porter. Et dès les premières phrases et dès les premières pages, on est pris dans ce rythme. Et donc, en conclusion, je rapproche donc le parcours du lecteur du roman en disant que le lecteur marche dans la phrase comme le piéton marche dans la ville, c'est ce que je disais au tout début, ou comme le spectateur marche dans les installations de Richard Serra. Alors ça, c'est la reproduction que vous avez, c'est la reproduction d'une œuvre qui s'appelle justement La matière du temps, The Matter of Time. Elle est au musée Guggenheim de Bilbao. Et donc, marcher dans la phrase, marcher dans le temps, marcher dans la matière du temps, parce que je ne sais pas si vous avez fait cette expérience des installations de Richard Serra, on peut effectivement montrer les autres, c'est-à-dire que ce n'est plus du tout des sculptures que l'on regarde, c'est des sculptures dans lesquelles, autour desquelles on marche, dans lesquelles on pénètre, et vous voyez, ce sont des immenses plaques, quand elles se resserrent, intuitivement on accélère, on va plus vite, quand au contraire ça s'écarte et que la paroi est concave, on se sent bien et donc on ralentit le pas. Bref, c'est une ponctuation de l'espace qui nous donne à sentir le temps, qui nous fait faire l'expérience d'un espace rythmé. Et ça, c'est une exposition qui a eu lieu en 2008 lors de l'édition Monumenta, où le Grand Palais avait été donné à Richard Serra, c'est la grande galerie du Grand Palais, où on avait simplement cinq plaques entre lesquelles on déambulait. Donc voilà, pour conclure, lire un roman, c'est s'avancer dans l'œuvre, comme je le disais, suivre le cours des phrases, balisées par les signes, suivre le cours du temps et en éprouver le rythme. Et c'est en outre, parce que je voudrais conclure sur Proust, comme le dit un des cahiers de brouillon de Proust, le cahier 7, sentir qu'on traverse du temps, le temps de l'œuvre, mais aussi le temps de notre vie. Car les livres d'autrefois, dit Proust dans ce texte célèbre qui est sur la lecture, sont les seuls calendriers que nous avons gardés des jours enfouis. Ils contiennent, insérés dans leurs pages, ce moment de notre vie où nous les avons lus pour la première fois. Bien plus, les livres d'autrefois gardent même enclose dans leurs pages l'époque, parfois très ancienne, où ils ont été écrits, ainsi que les époques successives où ils ont été lus. Proust évoque cette magie de la lecture dans sa préface à César Bellis, donc le texte qui s'intitule « Sur la lecture », en montrant comment le lecteur des classiques, Racine ou Saint-Simon, a le plaisir de goûter dans les tournures syntaxiques de la langue qui ne nous est plus familière, de belles formes de langage abolies. Bien plus encore, et c'est Proust qui parle, ce ne sont pas seulement les phrases qui dessinent à nos yeux les formes de l'âme ancienne, mais aussi la ponctuation. Donc je vous lis cette citation très belle pour conclure. Entre les phrases, et je pense à des livres très antiques qui furent d'abord récités, dans l'intervalle qui les sépare, se tient encore aujourd'hui, comme dans un hypogée inviolé, remplissant les interstices, un silence bien des fois séculaire. Souvent, dans l'évangile de Saint-Luc, rencontrant les deux points qui l'interrompent avant chacun des morceaux presque en forme de cantique dont il est parsemé, j'ai entendu le silence du fidèle qui venait d'arrêter sa lecture à voix haute pour entonner les versets suivants comme un psaume qui lui rappelait les psaumes plus anciens de la Bible. Ce silence remplissait encore la pause de la phrase qui, s'étant scindée pour l'enclore, en avait gardé la forme. Et plus d'une fois, tandis que je lisais, il m'apporta le parfum d'une rose que la brise entrant par la fenêtre ouverte avait répandue dans la salle haute où se tenait l'assemblée et qui ne s'était pas évaporée depuis 17 siècles. Alors, vous voyez, de la lecture à la voix haute du liseur de ces livres très antiques qui furent d'abord récités à la lecture individuelle et silencieuse du lecteur moderne, Proust, dans cet extrait, ranime l'origine orale de la ponctuation, en retraçant donc son évolution, et il fait jouer ensemble les deux coordonnées des signes dans le repère de la ponctuation, l'une sur l'ordonnée de l'espace, l'autre sur l'abscisse du temps, tels ces deux points qui enclosent la forme d'un silence séculaire. Les deux points enclosent dans l'intervalle ainsi créé le silence que marquait le récitant des premières communautés chrétiennes avant ces versets qui lui rappelaient les psaumes plus anciens de la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Pour le lecteur qui, les faisant s'ouvrir, sait l'entendre, ce silence apporte même une bouffée de ce parfum d'un autre temps. Au fond de l'hypogée du Le Point gît l'épaisseur du temps, ce temps que le lecteur traverse et qu'il fait remonter à la surface. Dans l'hypogée des Deux Points, le temps, ainsi que le dit Marcel Proust, a pris la forme de l'espace. Donc, vous voyez, la ponctuation, c'est le stylet dont use l'auteur pour façonner la phrase à son usage, pour mesurer son avis. C'est le biais par lequel il peut écrire le temps. Valérie, elle jalonne la marche du lecteur qui s'avance dans le roman. Elle est le biais par lequel il peut saisir le temps. Dessinant à nos yeux les formes que notre lecture dépie, la ponctuation délimite l'espace temporel que crée l'œuvre d'art et en est ainsi un des critères nécessaires.